Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous nous retrouvons pour la suite du roman de Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Vers la fin de l'après-midi, il s'étonna de ne pas avoir reçu un coup de téléphone de Chantal Grippet. Pourtant, elle avait dû s'apercevoir qu'elle avait oublié la robe noire. Il composa son numéro de portable, mais personne ne répondait. Après le signal, c'était le silence. Vous étiez arrivé au bord d'une falaise, au-delà de laquelle il n'y avait plus que le vide. Il se demanda si le numéro était encore attribué ou si Chantal Grippet n'avait pas perdu son portable ou si elle était encore vivante. Par contagion, un doute l'effleura concernant Gilles Ottolini. Il tapa sur le clavier de l'ordinateur « Agence Swirtz, Paris ». Aucune agence Swirtz à Paris, ni dans le quartier de la gare Saint-Lazare, ni dans un autre arrondissement. Le prétendu auteur du flâneur hippique n'était qu'un employé fantôme d'une agence imaginaire. Il voulut savoir si un Ottolini était mentionné square du Grésivaudan, mais parmi les noms qui figuraient aux 8 numéros du square, pas un seul Ottolini. En tout cas, la robe noire était là, sur le dossier du canapé, preuve qu'il n'avait pas rêvé. Il tapa à tout hasard « Sylvie Rosa, couture mode, rue Estelle, Marseille ». Mais il n'obtint que « Retouche Rosa, 18 rue du Sauvage, 68100 Mulhouse ». Depuis quelques années, il ne se servait presque plus de cet ordinateur sur lequel la plupart de ses recherches tournaient court. Les rares personnes dont il aurait aimé retrouver la trace avaient réussi à échapper à la vigilance de cet appareil. Elles s'étaient glissées à travers les mailles du filet parce qu'elles appartenaient à une autre époque et qu'elles n'étaient pas des enfants de cœur. Il se rappela son père, qu'il avait à peine connu, et qui lui disait d'une voix douce « Je découragerai 10 juges d'instruction. » Aucune trace de son père dans l'ordinateur. Pas plus que de Torstel ou de Perrin de Lala, dont il avait tapé les noms sur le clavier la veille avant l'arrivée de Chantal Grippet. Dans le cas de Perrin de Lala, il s'était produit le phénomène habituel. Des quantités de Perrin s'affichaient sur l'écran et la nuit ne suffisait pas à épuiser leur liste. Ceux dont il aurait aimé avoir des nouvelles se cachaient souvent dans une foule d'anonymes ou bien derrière un personnage célèbre qui portait le même nom. Et quand il tapait sur le clavier une question directe « Jacques Perrin de Lala est-il encore vivant ? Si oui, donnez-moi son adresse. » L'ordinateur était incapable de répondre et l'on sentait passer à travers les multiples fils qui reliaient l'appareil à des prises électriques une certaine hésitation et une certaine gêne. Parfois, vous étiez entraîné sur des fausses pistes. Astran proposait des résultats en Suède et plusieurs personnes de ce nom se regroupaient dans la ville de Göteborg. Il faisait chaud. Et cet été indien se prolongerait sans doute jusqu'en novembre. Il décida de sortir au lieu d'attendre dans son bureau, comme d'habitude, le coucher du soleil. Tout à l'heure, quand il serait de retour, il tenterait de déchiffrer à l'aide d'une loupe les photocopies des pages dont il avait fait la veille une lecture trop rapide. Ainsi aurait-il peut-être la chance d'apprendre quelque chose sur Annie Astran. Il regrettait de ne pas lui avoir posé ces questions quand il l'avait revue 15 ans après l'épisode de la boutique Photomaton. Mais il avait très vite compris qu'il n'obtiendrait d'elle aucune réponse. Dehors, il était plus insouciant que les jours précédents. Il avait peut-être tort de se plonger dans ce passé lointain. À quoi bon ? Il n'y pensait plus depuis de nombreuses années, si bien que cette période de sa vie avait fini par lui apparaître à travers une vitre dépolie. Elle laissait filtrer une vague clarté, mais on ne distinguait pas les visages, ni même les silhouettes. Une vitre lisse, une sorte d'écran protecteur. Peut-être était-il parvenu, grâce à une amnésie volontaire, à se protéger définitivement de ce passé. Ou bien c'était le temps qui en avait atténué les couleurs et les aspérités trop vives. Là, sur le trottoir, dans la lumière de l'été indien qui donnait aux rues de Paris une douceur intemporelle, il avait de nouveau l'impression de faire la planche. Cette impression, il ne l'éprouvait que depuis l'année précédente. Et il se demandait si elle n'était pas liée à l'approche de la vieillesse. Il avait connu très jeune ces instants de demi-sommeil où l'on se laisse dériver, souvent après une nuit blanche. Mais aujourd'hui, c'était différent. Le sentiment de descendre en roue libre une pente quand le moteur s'est arrêté. Jusqu'à quand ? Il glissait, entraîné par une brise et par son poids. Il se heurtait à des piétons qui venaient en sens inverse et ne s'était pas écarté assez vite sur son passage. Il s'excusait, ce n'était pas sa faute. D'habitude, il faisait preuve d'une plus grande vigilance quand il marchait dans la rue, prêt à changer le trottoir s'il voyait de loin quelqu'un qu'il connaissait et qui risquait de l'aborder. Il s'était aperçu que l'on rencontre, en de très rares occasions, une personne que l'on aurait voulu vraiment rencontrer 2 ou 3 fois dans une vie. Il aurait volontiers marché jusqu'à la rue de Charonne pour rapporter sa robe à Chantal Grippet. Mais il risquait de tomber sur Gilles Ottolini. Et alors ? Voilà qui permettrait d'être mieux fixé sur l'existence incertaine de cet homme. La phrase de Chantal Grippet lui revint. Ils veulent le licencier à l'agence Swirtz. Mais elle devait bien savoir que l'agence Swirtz n'existait pas. Et le livre, Le flâneur hippique, dont le copyright datait d'avant-guerre. Ottolini avait-il apporté le manuscrit aux éditions du Sablier dans une vie antérieure et sous un autre prénom ? Lui, Daragan, méritait quand même quelques explications là-dessus. Il était arrivé sous les arcades du Palais Royal. Il avait marché sans but précis. Mais en traversant le pont des Arts et la cour du Louvre, il suivait un itinéraire qui lui était familier dans son enfance. Il longeait ce qu'on appelle le Louvre des antiquaires. Et il se souvint au même endroit des vitrines de Noël des grands magasins du Louvre. Et maintenant qu'il s'était arrêté au milieu de la galerie de Beaujolais, comme s'il avait atteint le but de sa promenade, un autre souvenir ressurgit. Il avait été enfoui depuis si longtemps et à une telle profondeur à l'abri de la lumière qu'il paraissait neuf. Il se demanda si c'était vraiment un souvenir ou bien un instantané qui n'appartenait plus au passé, après s'être détaché de celui-ci comme un électron libre. Sa mère et lui. L'une des rares fois où ils étaient ensemble. Entrant dans un magasin de livres et de tableaux, et sa mère, parlant avec deux hommes, dont l'un assis à un bureau au fond du magasin et l'autre appuyé du coude au marbre d'une cheminée. Guy Torstel, Jacques Perrin de Lala, figé là, jusqu'à la fin des temps. Comment se faisait-il que le dimanche d'automne où il était revenu du Tremblay en compagnie de Chantal et de Paul dans la voiture de Torstel, ce nom ne lui ait rien évoqué, pas plus que sa carte de visite où était pourtant mentionnée l'adresse du magasin. Dans la voiture, Torstel avait même fait allusion à la maison des environs de Paris, où il l'avait vue enfant, la maison d'Annie Astran. Il y était resté, lui, d'Aragane, pendant près d'un an, à Saint-Leu-la-Forêt. « Je me souviens d'un enfant, » avait dit Torstel. « L'enfant, c'était vous, je suppose. » Et d'Aragane lui avait répondu sèchement comme si cela ne le concernait pas. C'était le dimanche où il avait commencé d'écrire « Le noir de l'été », après que Torstel l'eût déposé « Square du Grésivaudan ». Et pas un moment, il n'avait eu la présence d'esprit de lui demander s'il se rappelait la femme qui habitait dans cette maison à Saint-Leu-la-Forêt, une certaine Annie Astran. Et s'il savait à tout hasard ce qu'elle était devenue. Il s'assit sur un banc du jardin, au soleil, près des arcades de la galerie de Beaujolais. Il avait dû marcher pendant plus d'une heure, sans même remarquer qu'il faisait encore plus chaud que les autres jours. Torstel, Perrin de Lala. Mais oui, il avait rencontré Perrin de Lala une dernière fois, la même année que celle du dimanche au Tremblay. Il avait à peine 21 ans. Et cette rencontre serait tombée dans la nuit froide de l'oubli, comme dit la chanson, s'il n'avait pas été question d'Annie Astran. Un soir, il se trouvait dans un café du rond-point des Champs-Élysées que l'on avait transformé en drugstore les années suivantes. Il était 10 heures. Une halte avant de reprendre sa marche vers le square du Grésivaudan, ou plutôt vers une chambre de la rue Coustou qu'il louait depuis quelque temps pour 600 francs par mois. Cette nuit-là, il ne s'était pas tout de suite aperçu de la présence de Perrin de Lala devant lui sur la terrasse, seul. Pourquoi lui avait-il adressé la parole? Il ne l'avait pas vu depuis plus de 10 ans et cet homme ne pouvait certainement pas le reconnaître. Mais il écrivait son premier livre et Annie Astran occupait son esprit d'une manière lancinante. Peut-être Perrin de Lala savait-il quelque chose sur elle.
Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Place des Fêtes, on roule pas. Place Clichy, on roule pas. La Bastille est assiégée. Et la République est en danger. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. L'agent voudrait se mettre au vert. L'opéra rêve de grand-père. À Cambronne on a des mots. Et à Austerlitz et Waterloo. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis.
Lectures en liberté. Denis Flageol.
Après la pause musicale, nous revenons donc au roman de Patrick Modiano. Daragan s'était planté devant sa table et l'autre avait levé la tête. Non, il ne le reconnaissait pas. Jean Daragan. Ah, Jean. Il lui souriait d'un faible sourire, comme s'il était gêné que quelqu'un le rencontre à cette heure-là, seul, dans un tel endroit. Depuis le temps, vous avez grandi, asseyez-vous, Jean. Il lui désignait le siège en face de lui. Daragan hésita une fraction de seconde. La porte vitrée de la terrasse était entrouverte. Il suffisait de dire la phrase qui lui était habituelle. « Attendez, je reviens. » Puis de sortir à l'air libre dans la nuit et de respirer un grand coup. Et surtout d'éviter de se retourner sur une ombre là-bas qui resterait pour l'éternité à attendre, seule, à la terrasse d'un café. Il s'assit. Le visage de statue romaine de Perrin de Lalla s'était empâté, et les boucles de ses cheveux avaient pris une teinte grisâtre. Il portait une veste de toile bleu marine trop légère pour la saison. Devant lui, un verre de martini à moitié bu, que Daragan reconnut à la couleur. « Et votre mère ? Il y a des années que je ne lui ai pas fait signe, vous savez. » Nous étions comme frères et sœurs. Il haussa les épaules, et son regard eut une expression soucieuse. J'ai été longtemps absent de Paris. Apparemment, il aurait voulu lui confier les raisons de cette longue absence, mais il restait silencieux. Et vous avez revu vos amis Torstel et Bob Brugnan? Perrin de Lalla parut surpris d'entendre ces deux noms dans la bouche de Daragan, surpris et méfiant. « Vous en avez de la mémoire? Vous vous rappelez ces deux-là ?» Il regardait fixement Daragan et ce regard le gênait. « Non, je ne les vois plus. » « C'est fou comme les enfants ont de la mémoire. Et vous, quoi de neuf ?» Daragan sentit percer de l'amertume dans cette question. Mais peut-être se trompait-il, ou bien chez Perrin de Lalla était-ce tout simplement l'effet d'un martini que l'on boit seul à 10 heures du soir, en automne, à la terrasse d'un café. J'essaie d'écrire un livre. Il se demanda pourquoi il avait fait cet aveu. Ah, comme du temps où vous étiez jaloux de Minou Drouet. Daragan avait oublié ce nom. Mais oui, c'était la petite fille de son âge qui avait publié autrefois le recueil de poèmes « Arbre, mon ami ». C'est très difficile, la littérature. Je suppose que vous avez dû déjà vous en apercevoir. Perrin de Lalla avait pris un ton sentencieux qui étonna Daragan. Le peu de choses qu'il savait de lui et le souvenir d'enfance qu'il en gardait lui auraient fait penser que cet homme était plutôt frivole. Une silhouette qui s'appuie du coude au marbre des cheminées. Avait-il appartenu, comme sa mère et Torstel, et peut-être Bob Brugnan, lui aussi au club des chrysalides ? Il finit par lui dire « Alors, après cette longue absence, vous êtes revenu définitivement à Paris. » L'autre haussa les épaules et jeta à Daragan un regard hautain, comme si celui-ci avait manqué de respect. « Non, je ne sais pas ce que vous entendez par « définitivement ». Daragan l'ignorait aussi. Il avait simplement dit cela pour meubler la conversation, et ce type prenait la mouche. Il avait envie de se lever et de lui lancer « Bien, bonne chance, monsieur !» Et avant de franchir la porte vitrée de la terrasse, il lui ferait un sourire et un signe d'adieu de la main, comme sur un quai de gare. Il se retint. Il fallait avoir de la patience. Il savait peut-être quelque chose sur Annie Astrand. Vous me donniez des conseils de lecture, vous vous souvenez ? Il s'efforçait de prendre une voix émue. Et c'était vrai, après tout, que ce fantôme lui avait offert, quand il était enfant, les fables de La Fontaine, dans la collection à couverture vert pâle des classiques Hachette. Et quelque temps plus tard, le même homme lui avait conseillé de lire Fabrizio Lupo quand il serait grand. Décidément, vous avez beaucoup de mémoire. Le ton s'était radouci. Les perrins de Lala lui souriaient. Mais ce sourire était un peu crispé. Il se pencha vers Daragan. « Je vais vous dire. Je ne reconnais plus le Paris où j'ai vécu. Il a suffi de 5 ans d'absence. J'ai l'impression d'être dans une ville étrangère. » Il serrait les mâchoires comme pour empêcher les mots de sortir de sa bouche dans un flot désordonné. Sans doute n'avait-il parlé à personne depuis longtemps. Les gens ne répondent plus au téléphone. Je ne sais pas s'ils sont encore vivants, s'ils m'ont oublié ou s'ils n'ont plus le temps de prendre une communication. Le sourire était devenu plus large, le regard plus tendre. Peut-être voulait-il atténuer la tristesse de ses paroles, une tristesse qui s'accordait bien à la terrasse déserte, où l'éclairage laissait des zones de pénombre. Il parut regretter d'avoir fait ses confidences. Il redressa le buste et tourna la tête vers la porte vitrée de la terrasse. Malgré l'empattement du visage et les boucles grises qui donnaient maintenant à sa chevelure l'aspect d'une perruque, il gardait cette immobilité de statue qui était souvent la sienne il y avait 10 ans. L'une des rares images de Jacques Perrin de Lala dont Daragan se souvenait. Et il avait aussi l'habitude de se mettre souvent de profil pour parler à ses interlocuteurs, comme en ce moment. On avait dû lui dire autrefois qu'il avait un assez beau profil, mais tous ceux qui lui avaient dit cela étaient morts. « Vous habitez dans le quartier ?» lui demanda Daragan. De nouveau, il se penchait vers lui et il hésitait à répondre. « Pas très loin. » Dans un petit hôtel du quartier des Ternes. Il faudrait que vous me donniez l'adresse. Vous y tenez vraiment ? Oui. Ça me ferait plaisir de vous revoir. Il allait maintenant entrer dans le vif du sujet et il en éprouvait une certaine appréhension. Il s'éclaircit la gorge. Je voudrais vous demander un renseignement. Sa voix était blanche. Il remarqua la surprise sur le visage de Perrin de Lala. « C'est au sujet de quelqu'un que vous avez peut-être connu, Annie Astran. » Il avait prononcé ce nom assez fort et en articulant bien les syllabes, comme au téléphone quand des grésillements risquent d'étouffer votre voix. « Répétez-moi le nom. Annie Astran. » Il avait presque crié, et il lui semblait l'avoir lancé un appel au secours. « J'ai habité longtemps chez elle, dans une maison à Saint-Leu-la-Forêt. » Les mots qu'il venait de prononcer étaient très clairs et d'une sonorité métallique dans le silence de cette terrasse. Mais il pensa que cela ne servait à rien. « Oui, je vois, nous sommes allés vous visiter une fois là-bas. » « Avec votre mère. » Il s'était tu, et il ne dirait plus rien sur le sujet. Il ne s'agissait que d'un souvenir lointain qui ne le concernait pas. Il ne faut jamais compter sur personne pour répondre à vos questions. Pourtant, il ajouta, « Une femme très jeune, dans le genre danseuse de cabaret. » Bob Brugnan et Torstel la connaissaient mieux que moi, et votre mère aussi. Je crois qu'elle avait fait de la prison. Et pourquoi donc vous intéressez-vous à cette femme ? Elle a beaucoup compté pour moi. Ah bon ? Eh bien, je regrette de ne pas pouvoir vous renseigner. J'avais vaguement entendu parler d'elle par votre mère et Bob Brugnan. Il avait pris une voix mondaine. Daragan se demanda s'il n'imitait pas quelqu'un qu'il avait impressionné dans sa jeunesse et dont il s'était exercé, le soir devant une glace, à copier les gestes et les intonations, quelqu'un qui avait représenté pour lui, bon garçon un peu naïf, toute l'élégance parisienne. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle a fait de la prison. Je ne sais vraiment rien d'autre sur cette femme. On avait éteint les néons de la terrasse pour faire comprendre à ses deux derniers clients que le café allait fermer. Perrin de Lala restait silencieux dans la pénombre. Daragan pensa à cette salle de cinéma de Montparnasse où il était entré l'autre soir pour s'abriter de la pluie. Elle n'était pas chauffée et les rares spectateurs avaient gardé leur manteau. Souvent au cinéma, il fermait les yeux. Les voix et la musique d'un film étaient pour lui plus suggestives que l'image. Il lui revenait à l'esprit une phrase du film de ce soir-là, dite d'une voix sourde avant que la lumière ne se rallume, et il avait eu l'illusion que c'était lui-même qui la prononçait. « Pour aller jusqu'à toi, quel drôle de chemin il m'a fallu prendre !» Quelqu'un lui tapotait l'épaule. « Messieurs, nous allons fermer, il est temps de partir !» Ils avaient traversé l'avenue et ils marchaient dans le jardin, là où se dressent le jour les stands du marché au timbre. Daragan hésitait à prendre congé de Perrin de Lala. Celui-ci s'arrêta comme si une idée lui avait brusquement traversé l'esprit. « Je ne saurais même pas vous dire pourquoi elle a fait de la prison !» Il lui tendit une main que Daragan serra. À très bientôt, j'espère, ou peut-être à dans 10 ans. Daragan ne savait quoi répondre, et il restait là, sur le trottoir, à le suivre des yeux. L'autre s'éloignait dans sa veste trop légère. Il marchait sous les arbres, d'un pas très lent. Et au moment où il allait traverser l'avenue de Marigny, il faillit perdre l'équilibre. Poussé dans le dos par un coup de vent et une brassée de feuilles mortes. Nous reprendrons donc la semaine prochaine la suite de ce roman de Patrick Modiano pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.